Sun Tzu Tzu, donc je vais rapidement présenter ce que l'on fait chez Sun Tzu Tzu et comment est-ce qu'on a travaillé ici. Alors Sun Tzu Tzu, c'est à la fois un média et disons plus largement une plateforme de crowdsourcing d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de détecter des signaux faibles partout dans le monde, des innovations dans tous les secteurs d'activité grâce à notre communauté d'un peu plus de 1200 personnes dans le monde qu'on appelle les éclaireurs et qui nous partagent en permanence des innovations qui peuvent être technologiques ou non technologiques, qui peuvent être de commercialisation, d'organisation, de process, de tout ce que vous voulez, et qui vont nous les partager en permanence. Et nous, on va venir en fait distiller, ou en tout cas créer une base de données à partir de ces innovations. Aujourd'hui, un peu plus de 6 ou 7 000 contributions à date dans notre base de données. Et puis ensuite, on va essayer d'analyser ces signaux faibles pour en tirer, pour essayer d'en tirer des tendances de vers où le marché en question va. Et puis ensuite, on va partager ces analyses et ces innovations sur notre site, sur notre newsletter, sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de médias partenaires et dans des conférences comme aujourd'hui, par exemple, ou sur des études dédiées à tel secteur.
Corentin, juste un point, la place du food, justement, dans toutes ces analyses-là, dans tout ce que tu vas nous exposer.
Alors, le food est assez représenté dans tous nos... Je dirais que, alors, je ne connais pas le poids précis du secteur food dans notre base de données, mais je dirais qu'il est plutôt plus représenté que d'autres. Alors, j'ai moi aussi un peu mal... Je ne sais pas où est le capteur, en fait. Ah, il est d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc on a regroupé un certain nombre d'innovations que l'on a vu passer dans notre base de données et ailleurs, et on a en fait choisi un certain nombre de tendances en voyant ces signaux faibles se regrouper. Ici, on en a choisi quelques-unes complètement subjectivement, il y en a beaucoup d'autres. Donc, que sont le social, le lien entre le online et l'offline, la data, la donnée, et puis le côté local. Alors, première tendance, le social, que là, on a pris dans son acception, au sens plutôt premier du terme, c'est-à-dire, je m'intéresse aux autres et à la planète qui m'entoure. Alors, première innovation, pour illustrer ici on voit pas bien le nom, c'est pas grave. Il s'agit d'une ONG espagnole qui s'appelle Manos Unidas, qui a en fait eu l'idée très, très smart de développer un filtre pour Instagram. Qu'est-ce qu'un filtre pour Instagram? En fait, ça va fonctionner en deux étapes. Ça va faire levier sur Instagram. C'est assez intéressant en termes de communication. Manos Unidas est parti du constat selon lequel, de plus en plus, nous partageons nos photos de nourriture et de plats au restaurant ou à la maison sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc, ils ont sorti un filtre sur Instagram, donc commercialisé assez peu cher, 99 centimes d'euros. Et chaque personne qui va télécharger ce filtre va d'abord donner ses 99 centimes d'euros à l'ONG directement. Et puis ensuite, il va pouvoir être capable d'ajouter un filtre de sensibilisation à la faim dans le monde, puisque c'est le but de cette ONG, Manos Unidas, que de lutter contre la faim dans le monde. Et donc on va ajouter en tant qu'utilisateur un filtre et on va sensibiliser les gens de sa communauté à cette cause. Donc un levier double, une détente double, je dirais. Premier pas, je donne une fois que je télécharge l'application ou le filtre, et puis deuxième fois, je le dis et je le partage et j'essaie de faire levier sur ma communauté à titre personnel pour aller engager d'autres gens vers la cause qui me tient à cœur.
Je m'accapare, je surfe sur un usage, utiliser Instagram dans l'alimentaire, notamment sur les recettes, pour sensibiliser à une cause en lien évidemment avec cet usage.
Exactement, c'est ça. C'est un peu en fait ce qu'on essaie de faire nous-mêmes chez Sun Tzu. On parle de l'existant, de l'usage, qu'est-ce qui se passe sur tel secteur, et puis plutôt que de s'inscrire contre, parce que justement nous on lutte contre la faim dans le monde et qu'on se dit tiens, il y a peut-être du gâchis alimentaire, il y a peut-être les gens partagent les photos au restaurant, ils ne sont pas forcément conscients. Bah, justement, on va utiliser ce levier justement pour faire du bruit à propos de cette cause. Deuxième exemple dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Optimiam, une application mobile également française. Alors vous avez peut-être suivi les nombreuses tentatives et discussions autour du gâchis alimentaire, notamment avec un élu des Hauts-de-Seine qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. Alors ici, le concept de cette application est très simple, c'est de regrouper donc, quelques gérants de supérettes, quelques gérants sont inscrits aujourd'hui à Paris, et en fait l'idée c'est de, chaque jour ou chaque semaine, c'est de mettre à jour en fait, le stock de produits qui arrivent proche de la date de péremption, peut-être le soir même ou le lendemain, et de dire en tant que gérant de la supérette, eh bien, ces produits-là, je vais les vendre à prix cassé, puisque eh bien, je ne pourrai plus les vendre demain. Et donc ça, c'est d'ailleurs l'une des innovations qui a revenu le plus, qui a connu le plus de succès, je crois, dans certains tests que vous avez fait, vous, Philippe, chez OpinionWare.
Effectivement, on avait testé en complément certaines pistes évoquées par Sun Tzu Tzu, et c'est la piste qui a retenu le plus l'attention.
On a d'autres initiatives du même type, évidemment, dans d'autres pays, comme aux États-Unis, à San Francisco, par exemple, qui a pris le problème un petit peu différemment et qui s'occupe plutôt du B2C, dans le sens où, vous, particulier, vous pouvez dire il me reste tant d'aliments dans mon frigo et je pars en vacances, par exemple, donc je suis prêt à les donner et un bénévole va venir les chercher et va venir les distribuer auprès de l'association locale. Le troisième exemple ici, alors c'est un exemple plus, complètement différent de Biocop qui a engagé une campagne responsable donc, l'année dernière. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Biocop donc, évidemment porte des valeurs fortes et arrive à les porter et à les afficher jusque sur ses campagnes de communication. Ici, donc la campagne était complètement éco-responsable puisque alors, le site web ne pesait que 3000 volts, effectivement, comme on le voit sur la capture d'écran, mais aussi bien d'autres choses, notamment le shooting photo avait été réalisé avec le moins de moyens possible, avec le moins de déplacements possible. Et puis au final, en fait, le Biocop avait montré que l'impact environnemental de sa campagne de communication était 3 fois inférieur à la moyenne d'une campagne de communication classique, entre guillemets. Donc c'est intéressant de voir que, à l'heure où toutes les marques deviennent des médias elles-mêmes, et bien ici, on a à la fois un média, et puis ce média, il ne sert pas seulement à communiquer, mais aussi à porter les valeurs que la marque défend et représente. Et même jusque sur le support de communication, ils étaient engagés, puisqu'ils n'avaient annoncé que dans des magazines dont le papier était intégralement recyclé. Ici, on a une initiative encore différente qui vient de Copenhague, au Danemark, d'un chocolatier qui s'appelle Anton Berg et qui avait en fait pendant toute une journée l'année dernière proposé ces chocolats non pas contre des prix en euros mais contre des prix en bonnes actions. Et donc en fait l'idée c'était pour chaque consommateur de dire eh bien j'achète ce produit et je m'engage à par exemple la semaine prochaine amener les courses à mon voisin malade ou âgé. Je m'engage à faire telle bonne action. Et en fait, comment est-ce que la marque et puis la communauté s'assurer du bon fonctionnement, de la véracité de cette bonne action? Eh bien, le client s'engageait immédiatement sur l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat, sur les réseaux sociaux, auprès de sa communauté et de la marque, eh bien, de dire voilà mon engagement aujourd'hui. Et donc finalement, c'était un peu sa communauté qui contrôlait en fait, la véracité de ses dires et le fait qu'il réalise effectivement la bonne action en question.
On est sur une notion de transparence toujours, mais du coup portée par les consommateurs.
C'est ça, portée par le consommateur et surveillée, contrôlée par sa communauté. C'est ça qui est intéressant dans ce cas-là. Donc on va rapidement arriver sur la deuxième tendance qui est évidemment le online plus l'offline, dont on sait que ces dernières années, et dans tous les secteurs, c'est le cas. De plus en plus, on ne parle plus seulement de e-commerce ou de commerce physique, mais évidemment, on essaie de faire du pont entre les deux. Ici, on a un premier exemple qui est un exemple média qui s'appelle Fulgurance. Et donc, c'est un média, pardon, toujours dédié au monde de la food, de la gastronomie plutôt créative, qui s'est lancé d'abord sur le digital et puis avec des parutions papier et qui a également événementialisé tout un pan de son activité avec un événement qui s'appelle Les Seconds sont les Premiers. Il y a eu à peu près une quarantaine d'événements de ce type depuis la création il y a quelques années. Alors l'idée c'est de mettre en lumière en fait les seconds des tables les plus prestigieuses dans le monde. Donc ils ont eu comme ça les seconds de certains restaurants très prestigieux comme le Noma à Copenhague ou certains très, très grands restaurants à Paris. Et donc l'idée ici c'est vraiment de diversifier évidemment ces activités et surtout ça rejoint, pourquoi on a mis cet exemple? Parce que ça rejoint une lame de fond qui est pour les médias d'aller exister en dehors du papier, en dehors du contenu écrit Et finalement, c'est de rester enraciné dans la qualité du média, la qualité du contenu, et d'aller l'exploiter aussi en mode oral et en mode événementiel plutôt que seulement écrit. Le deuxième exemple qui peut faire sourire en fait au début, c'est, vous l'avez peut-être vu passer sur le web, c'est un exemple d'un studio belge qui a expérimenté quelque chose donc dans un restaurant en Belgique. Il y a quelques mois, en fait, l'idée c'était de patienter. L'idée pour les clients c'était de patienter en regardant une petite vidéo amusante en fait, avec un petit chef qui venait sur le rebord de l'assiette, et en fait avec un vidéoprojecteur, on avait l'impression en fait d'assister à l'élaboration d'une recette. Alors ça peut paraître un peu gadget comme ça, mais en fait ça rejoint toute une tendance encore une fois de transparence et de données justement et de data. On va y venir juste après, où on imagine que demain, par exemple, dans certains restaurants, on pourrait avoir accès à ce qui se passe en coulisses, en cuisine, directement, ou bien des informations nutritionnelles sur ce que l'on est en train de manger. Ici, Supper, donc, c'est un site web, une application qui permet en fait de trouver et qui va matcher les playlists musicales idéales, à la fois pour réaliser une recette, et puis pour consommer le plat que l'on a réalisé. Donc ça s'appuie à la fois sur la technologie et sur la recommandation humaine pour et bien vous donner des conseils sur qu'écouter en préparant tel plat et qu'écouter en dégustant tel plat. Ici, on a un restaurant qui s'appelle Ultraviolet à Shanghai, qui a été ouvert par un chef français, et qui est en fait une expérience multisensorielle qui va jouer sur les cinq sens, puisque en fait à la fois le décor du restaurant change, les murs du restaurant changent, c'est une expérience gastronomique évidemment, avec une table unique et puis une vingtaine de successions de petits plats, de petits bouchées, mais également donc, le décor qui change, les lumières qui changent, la température ambiante qui change et l'ambiance sonore qui change. Donc l'idée ici c'est de faire vivre une véritable expérience et de toucher les cinq sens. On va maintenant arriver à la troisième tendance, donc la data. Bon, effectivement, on nous rebat les oreilles à peu près en permanence sur tous les secteurs d'activité, puisque vous savez qu'il y a plusieurs milliards d'objets connectés aujourd'hui, et qu'il y en aura encore 3 ou 4 fois plus dans les prochaines années. En fait, la data, ce n'est pas uniquement les objets connectés, même si on verra un exemple dans les innovations ici, mais c'est aussi une volonté de la part des consommateurs d'avoir le plus de données possible, et notamment sur la food, évidemment, puisque ça va concerner notre santé directement. Ici, le premier exemple, c'est Zego, avec une marque pardon, de barres céréalières sans allergènes et notamment sans gluten, qui va et qui propose depuis quelques mois de scanner en fait son code barre et de savoir, de connaître les résultats précisément de tests sur les allergènes du lot que je suis en train d'acheter. Donc, moi, consommateur, je suis en train d'acheter un produit qui fait partie d'un lot qui a été testé forcément pour la non-présence des allergènes, et je vais pouvoir voir en direct sur mon smartphone, avant de l'acheter évidemment, ou avant de le consommer, eh bien, les résultats précis du fait qu'il y a effectivement une absence d'allergènes dans ce produit.
C'est le prolongement de pas mal de choses qui existent aujourd'hui, on va voir au Open Food Fact tout à l'heure.
C'est ça, absolument, et ça va encore plus loin en fait que le simple fait de dire nos produits sont sans allergènes et nous vous prouvons, là nous vous prouvons en plus que votre produit, celui que vous avez entre les mains, il a passé des tests et il est réellement sans allergène. Ici, on a une initiative donc, suisse de l'enseigne Migros, qui est très intéressante en ce sens qu'elle permet à tout un chacun, donc quand on dit tout un chacun, c'est chaque client de Migros qui possède une carte de fidélité, et bien d'accéder tous les mois ou tous les deux mois à la part verte de sa consommation, la part green de sa consommation. Donc en fait l'idée c'est que je reçois en tant que consommateur tous les deux mois et bien un listing de ce que j'ai consommé et ce qui répond à l'un des 12 labels bio ou écolo qui ont été mis en place par Migros ou utilisés par Migros et par ses fournisseurs. Et je peux me situer par rapport à la moyenne de mon pays, de mon canton ou par rapport à l'objectif que je me suis fixé en termes de consommation responsable par rapport à mes achats. Donc une initiative d'une grande ancienne, qui est selon moi assez intéressante. Ici, on a le cas de l'APCA. Alors, on parlait d'objets connectés tout à l'heure, c'est celui-là, donc, l'exemple que l'on a retenu. L'idée de l'APCA, qui est une petite start-up russe à la base, qui a quelques années d'existence, c'est de pouvoir sonder son fruit pour savoir, pour connaître ses propriétés nutritionnelles et pour savoir notamment s'il est bio. Donc ça, c'était le premier produit que cette start-up LAPCA avait lancé il y a quelques années. Et en fait, ils ont lancé d'autres depuis pour connaître, pour récolter des données sur notre environnement et sur d'autres secteurs de notre environnement. Et pour l'anecdote, pas si anecdotique que ça, le mois dernier, cette start-up russe a été rachetée par Airbnb. Donc, alors on pourrait se dire, à priori, quel est le rapport avec le chimique. En fait, l'idée, c'est que l'APCA a développé d'autres capteurs sur d'autres thématiques, et notamment sur l'habitat, avec le fait de pouvoir capter est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi en ce moment, etc. Et donc, l'idée c'est, pour Airbnb, c'est d'aller c'est de pouvoir contrôler à distance en fait, son environnement personnel, de savoir si je suis absent et je peux peut-être laisser rentrer des gens, est-ce que les gens sont chez moi, est-ce que les gens sont partis, etc. Et tout ça pour dire qu'effectivement, cette notion de données récoltées par les utilisateurs, elle est assez essentielle. Et d'ailleurs, c'était aussi, Philippe, je crois, ce que les consommateurs avaient remonté dans vos tests.
Ce qui nous intéressait effectivement, c'était aussi de se dire, OK, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovations, pas mal de startups qui se lancent, mais est-ce que finalement c'est un épiphénomène? Est-ce que, pour notamment, on parlait tout à l'heure avec Guillaume, pour des soit grandes marques, hein, soit est-ce que il faut aller absolument sur tous ces sujets-là? Est-ce que c'est pas des sujets pour des startups, parce que pour défricher, pour les récits, est-ce que ce sont des vrais sujets? Et c'est pour ça qu'on a également, à travers OpinionWay, interrogé les Français sur la pertinence pour eux. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que ces sujets-là sont importants? Et en tout cas, certains ressortent dans ton étude.
Oui, effectivement, on n'avait pas testé toutes les pistes, mais comme Quentin y fait allusion tout à l'heure, la possibilité d'acheter des produits un peu cassés a particulièrement séduit. C'est pas un hasard, on l'évoquait tout à l'heure, l'importance de l'attente autour du vrai bon rapport prix. Et effectivement, cette proposition d'APCA a retenu également l'attention. De même que une que Corentin a présentée juste avant, autour du gène code qui permet de comprendre la composition, vérifier exactement. C'est également une piste qui a intéressé, pour donner un peu l'extrême, tout ce qui tourne autour de la playlist, honnêtement, ça n'a pas. Voilà, ça n'a pas déclenché la passion du foot.
Et donc ici, autre innovation dans cette tranche de la donnée, en fait, l'idée, c'est donc de faire du food pairing, donc d'entrer un ingrédient et puis de se voir proposer un certain nombre d'ingrédients qui vont correctement se coordonner et s'accorder avec celui-ci. Donc l'idée de ce service, de ce site, eh bien, c'est de proposer de nouvelles combinaisons et les meilleures combinaisons possibles grâce en fait à un profil qu'ils ont créé, développé eux-mêmes, sur lequel ils ont entré en fait toutes les propriétés de chaque ingrédient. Et donc ils ont réussi à faire des ponts et des liens entre certains ingrédients, et l'algorithme va pouvoir proposer les meilleurs alliages. Et donc on a voulu le mettre en perspective avec une dernière innovation de cette tendance qui est, vous l'avez peut-être vu, ce robot Molly Robotics, en fait, qui est capable de réaliser une recette. Ce sont des bras en fait mécaniques. Alors on imagine en associant les deux, l'innovation juste avant, algorithmique plus ces bras mécaniques et robotisés, et bien que demain on soit capable à la fois de créer la recette et de la faire réaliser instantanément et automatiquement.
Au secours.
Dernière tendance, donc le local, sur laquelle on va passer un petit peu rapidement, je crois qu'on est un petit peu short en temps. On avait mis donc cette innovation que vous connaissez peut-être à Montréal, sur les poids plats de Montréal, les fermes Lufa, qui est un sacré succès ces dernières années. L'idée, c'est de faire donc, non plus du locavore, mais de l'ultra-local, puisque ici, les cultures se font au sein même de la ville. Donc ça, c'était le niveau 1, finalement, de l'ultra-local, et puis maintenant, on a le niveau 2 de l'ultra-local, qui est notamment à Berlin avec l'Overstruction, qui propose en fait la même chose avec en plus la culture de poissons. Et donc le tout, donc les excréments de poissons viennent en fait nourrir les plantations et les végétaux, les fruits et légumes. Donc ici c'est le niveau 2 de l'ultra local et un concept amené à se développer dans plusieurs villes dans le monde et notamment dans d'anciennes friches industrielles. Ici on a un exemple qui va un peu dans le même sens, qui s'appelle Au bout du champ, qui est français. Il y a déjà 3 ou 4 points de vente à Paris. En fait, ce sont des vending machines, donc des distributeurs géants de produits locaux et frais. Donc l'idée, c'est que tous les matins, en fait, une livraison est effectuée à partir d'agriculteurs locaux, donc d'Île-de-France, ici dans ces casiers. Et vous, en tant que consommateur, vous pouvez réserver sur Internet vos fruits et légumes, vos barquettes, et vous pouvez venir les récupérer dans la vending machine le soir, évidemment ouvert assez tard, et pratique pour les modes de vie urbains modernes.
Corentin, quand du coup tu as interrogé un peu partout sur le digital et le food, est-ce que tu as des pays qui sont remontés plus particulièrement sur cette tendance digital et food? Est-ce que tu as senti que certains pays étaient plus en affinité avec le sujet ou en tout cas plus dynamiques?
Alors, on n'a pas vu véritablement de grands pays émerger, mais ce qu'on voit, c'est que c'est une lame de fond absolument phénoménale en ce moment, notamment. Et on le voit d'ailleurs, la bataille sanglante que se livrent tous les acteurs sur le food delivery, par exemple. D'ailleurs, le dernier exemple est sur le food. Ah, mais il n'est pas là. tant pis. Mais le dernier exemple sur le food delivery, c'était un peu. C'est ça, c'est l'idée de se battre sur. Les temps de livraison les plus rapides possibles, etc. Et le fait est qu'en fait, en France, on est plutôt bien outillé pour justement gagner ce challenge, puisqu'on est à la fois plutôt bon sur le digital et plutôt une nation de gastronomie. Donc je pense qu'on a toutes les chances de notre côté pour une fois sur ce secteur.
D'accord.
Ce dernier exemple est une bonne transition pour une des prochaines tables rondes, puisqu'on a aussi un acteur qui nous parlera de cette démarche-là sur comment on fait venir effectivement des produits de qualité qui sont produits localement jusqu'à nous, et donc c'est une belle manière de déterminer. Donc